Merci Seigneur. Donc ce matin, on va poursuivre à la fois terminer la courte, si on peut appeler ça série, courte série intitulée Délicieuse incertitude. Et simplement pour récapituler, pour ceux ou celles peut-être qui n'avaient pas été là ou ceux qui étaient là, mais peut-être ont oublié, on va juste rappeler un petit peu ce que c'est en fait que cette zone de délicieuse incertitude. Ce qu'on a mentionné, c'est que ce terme, cette expression de délicieuse incertitude, pardon, c'est un terme emprunté dans le monde du sport, qui sert à désigner cette zone optimale d'apprentissage chez un athlète. Et je vais vous montrer rapidement le graphique qu'on a vu la dernière fois. Est-ce que vous arrivez à le voir mieux?
Oui?
Oui. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai besoin de fermer la lumière ou c'est bon comme ça en arrière? C'est bon? OK. Et merci pour le graphique. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que ce qui détermine l'apprentissage, l'amélioration d'un athlète va être principalement deux facteurs qui sont, le premier, ses capacités personnelles à lui, ses habiletés, ses aptitudes personnelles, okay? Niveau d'habileté de l'apprenant. Et l'autre facteur qui va influencer, c'est la difficulté, le niveau de difficulté de la tâche qu'on lui demande. Donc, ce que je suis capable de faire par rapport à ce qu'on me demande de faire, c'est ce qui va déterminer un petit peu mon degré d'apprentissage, d'évolution, peu importe. Donc, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est que si le niveau de l'apprenant est trop élevé, si je suis capable, j'ai beaucoup de possibilités, mais ce qu'on me demande de faire n'est pas à la hauteur de ce que je suis capable de faire, éventuellement, ça crée quoi? Ça crée de l'ennui, une démotivation. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop facile. Mais contrairement, si le niveau de difficulté de ce qu'on me demande de faire est beaucoup plus élevé que ce que je suis en réalité capable de faire, ou bien où est-ce que je suis rendu dans mon développement, c'est pas que je serai jamais capable de faire, c'est plus que dans mon niveau de développement, où est-ce que j'en suis, la tâche qui m'est demandée est beaucoup trop élevée. À ce moment-là, c'est la frustration qui amène ultimement la même chose, à la démotivation. Donc, ce qu'on a mentionné la dernière fois, c'est que l'entraîneur, lui, son travail, c'est d'arriver à trouver ce qu'on appelle cette zone de délicieuse incertitude, où est-ce que ce qu'il demande à son athlète est toujours juste un petit peu supérieur à ce qu'il est capable de faire. Pourquoi? Pour l'emmener continuellement à se dépasser. Et on a fait la comparaison avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Et les deux axes qu'on a proposés, c'est d'un côté la parole de Dieu, et de l'autre côté, nos circonstances. Ou est-ce que des fois, les circonstances peuvent paraître beaucoup plus grandes que la parole que Dieu nous a proposée? Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons arriver à apprendre à vivre dans cette zone de délicieuse incertitude-là, où est-ce que il semble toujours un petit peu que les circonstances qui viennent dans nos vies parle plus fort, crie plus fort, sont plus grandes, sont plus capables que la parole que Dieu nous a donnée. Mais non seulement c'est la zone de délicieuse incertitude, c'est la zone où est-ce qu'on grandit davantage. C'est la zone où est-ce qu'on est toujours appelé à grandir dans notre foi, à prendre un pas qu'on n'a jamais pris avant. Et c'est là qu'on doit apprendre à vivre. Parce que si on vit d'un côté comme de l'autre, éventuellement, c'est quoi? C'est la démotivation, la frustration. Soit je ne suis pas assez ancré dans la parole et les circonstances arrivent dans ma vie et je me sens facilement submergé par ces circonstances-là. Ou de l'autre côté, j'ai beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, mais je ne la mets pas en pratique. Donc, qu'est-ce que ça fait tranquillement? Ça meurt, c'est de l'ennui, c'est de la démotivation, à quoi bon aller à l'église, etc. et tout. Donc, on a besoin de se tenir dans cette zone-là. Mais non seulement c'est la zone d'apprentissage optimale, mais c'est également la zone de difficulté optimale. Pourquoi? Parce que c'est la zone dans laquelle on va être le plus testé. Et c'est là que c'est intéressant, ou plutôt, pas intéressant, mais attirant ou tentant, plutôt, je devrais dire, c'est là où c'est tentant de vivre dans un des deux extrêmes. Parce qu'on ne sera jamais autant mis à l'épreuve que si on se tient au milieu. Mais si vous n'êtes pas mis à l'épreuve, si, comme la Bible le dit, on n'est pas épuré par le feu, ce qui est à l'intérieur de nous, qui est appelé à sortir, sortira jamais. Donc, il faut apprendre à vivre là. Et aujourd'hui, je veux vous proposer deux autres axes. Deux autres axes qui vont, à première vue, peut-être paraître semblables, similaires, mais on va voir qu'il y a quand même une différence notable dans tout ça. Et les deux axes, en fait, que je vais vous proposer ce matin, c'est tout simplement l'axe de notre propre capacité, le premier, et le second, celui de la capacité de Dieu. On compare notre propre capacité par rapport à la capacité de Dieu. Parce que voyez-vous, des fois, on lit la parole et on croit la parole. Si vous êtes assis ici, c'est qu'il y a un certain niveau, un certain degré où ce que vous croyez la parole de Dieu. Mais des fois, on croit la parole de Dieu, mais on hésite à savoir est-ce que Dieu va vraiment faire ce qu'il a dit. Par exemple, moi, ma mère, c'est une femme de parole. Non seulement c'est une femme de parole de Dieu, mais c'est de la parole, mais c'est une femme de parole. Ce qu'elle dit, elle le fait. Mais je l'ai appris, ça. Parce que plus jeune, je ne le savais pas. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu demandes, maman, j'ai besoin de telle chose pour vendredi. Par exemple, pour l'école ou quoi que ce soit. Pour vendredi, j'ai absolument besoin de ça. OK? Et ma mère, c'est pas, c'est, oui, elle va dire oui, mais c'est honnêtement, c'est plus du genre à faire, ok, signe de tête. Et là, tu dis, ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'elle m'écoutait même? Parce que des fois, elle te regarde pas là. Elle continue à faire la vaisselle. Tu dis, ah, maman, écoute, puis elle continue. Ok. Mais là, c'est lundi. Mardi, elle t'en a pas parlé. Mercredi, elle t'en a pas parlé. Jeudi, elle t'en a pas parlé non plus. Vendredi approche. Donc, vous seriez étonné le nombre de fois où je lui ai demandé quelque chose, disons, pour vendredi, et que finalement, le jeudi soir, je l'ai fait moi-même. OK? Ou je l'ai acheté moi-même. Pour finalement, vendredi, elle arrive. Tiens. Et là, tu te sens un peu ridicule. Okay? Parce que tu te retrouves avec deux exemplaires de ce que tu avais besoin et une que tu as payée et que tu aurais pu ne pas payer. OK? Et je le sais que ce que ma mère me dit, elle le pense. On sait ce que la parole de Dieu dit. C'est la vérité. Mais lorsqu'il en vient à la capacité, est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce qu'il va réellement le faire? C'est une autre histoire, des fois. Okay? Oui, je le sais que ma mère me l'a dit. Est-ce que tu crois à ta mère? Oui. Est-ce que ta mère a l'habitude de mentir? Non. Non. Mais! OK? Il y a toujours un mais. Mais pourtant, la parole de Dieu, surtout lorsqu'on regarde en Romains, chapitre 4, verset, on va lire verset 19, pardon, qui nous dit à propos d'Abraham que sans faiblir dans la foi, donc Romains 4, 19, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, donc par rapport à la promesse de Dieu qui lui avait dit qu'il lui donnerait un enfant, et que non seulement il donnerait un enfant, mais qu'il serait le père d'une multitude de nations. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, quoi? Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, donc ce qu'il dit, il peut aussi l'accomplir. Hein? C'est une chose de croire à la parole de Dieu. Mais est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire? Okay? Lorsqu'il en vient à la capacité de Dieu, le problème c'est quoi? Le problème c'est que la capacité de Dieu est étroitement reliée avec notre propre capacité, ou du moins avec la manière dont nous voyons notre propre capacité. Okay? C'est-à-dire que moi, je me trouve dans une situation où je crois que c'est impossible, où moi, je me trouve impuissant. Donc, mon impuissance est tellement grande qu'elle m'empêche de voir la puissance de Dieu. Okay? Et face à notre incapacité, souvent, on a une de deux réactions. Okay? Face à ce moment-là où on dit, je ne peux plus rien faire, moi. Okay? On a une de deux réactions. Et c'est quand même étrange. Et j'ai été témoin de ça. Vous savez, lorsque les soldats viennent au camp de recrues, à la base militaire, et qu'ils s'entraînent et qu'ils veulent entrer dans l'armée, ils ont des tests physiques à passer. Okay? Et en tant qu'instructeur, on doit donner ces tests physiques-là aux soldats. Okay? Et un de ces tests, c'est un test de natation. Mais en gros, le test de natation, c'est il doit se tenir sur le bord de la piscine, au signal, se jeter dans l'eau, remonter à la surface et juste rester là, flotter pendant 2 minutes. Et après 2 minutes, doit nager une longueur de 50 mètres, puis sortir de l'eau, et tout ça avec leur habit militaire. OK? Donc, nous, en tant qu'instructeurs, on se tient, évidemment, sur le bord de la piscine, on regarde, on calcule le temps. Et ce qu'on dit, c'est que ceux qui ont de la difficulté à nager ou qui ne savent pas du tout nager doivent absolument se tenir dans les extrémités de la piscine, okay? dans le premier et dans le dernier corridor. Pourquoi? Parce que si jamais, en plein milieu, ils ont de la difficulté, ils peuvent facilement prendre le bord et sortir de la piscine. Et non seulement ça, mais on a deux instructeurs, chacun de leur côté, avec des longues perches avec un crochet au bout. Okay? C'est long, puis le crochet assez solide. Pourquoi? Parce que si jamais la personne est en difficulté, tu dois être capable d'aller la chercher puis de la sortir. Honnêtement, c'était un des moments que j'aimais le moins. OK? Parce que des fois, ça pouvait être assez stressant. Parce que la personne qui ne sait pas nager, j'ai vu deux réactions différentes. La première réaction, c'est celle qui se retrouve dans le fond de l'eau et qui, à peine a fait quelques mouvements, décide déjà que j'y arriverai pas. Je ne serais pas capable de rester. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que, pas le temps de prendre le bord de la piscine, pas le temps de faire un signal, « OK, je veux sortir, peux-tu me sortir de l'eau? » Non, 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 non. Elle s'accroche au poteau, OK, et littéralement monte dessus. OK? C'est pas juste s'accroche dessus le crochet et sors-moi, c'est carrément, elle lève. Et à ce moment-là, c'est très dangereux pour nous de tomber dans l'eau avec eux. Hein? Et l'autre réaction, qui est presque, d'après moi, plus effrayante, c'est que tu as ceux qui sont en train de couler, qui réalisent qu'ils ne sont pas capables de nager et qui te regardent. Tout en coulant vers le fond. Bouge pas. Et te regarde. Et là, il faut que tu réalises que, OK, non, il ne monte pas là. Donc, tu dois prendre ta perche, aller dans l'eau, le chercher. Celui qui est à côté de toi vient t'aider pour pas que tu tombes dans l'eau avec. C'est pas agréable. Okay? Mais des fois, dans la vie, face à nos impuissances, on a des fois une de ces deux réactions. Je me sens impuissant, donc l'extrême, c'est quoi? J'en fais trop. OK? Faut que je m'en sorte. Faut que je prouve non seulement à moi-même, mais aux autres autour de moi que je suis capable. Donc, je vais y aller fort, fort, fort. Il y a de l'aide pour moi à l'extérieur. Non, 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 je n'ai même pas le temps de demander de l'aide, d'aller chercher de l'aide, de penser que Dieu est là. Non, je vais m'en sortir. Et l'autre extrême, c'est quoi? Je fais rien. Je me laisse mourir et j'accuse tout le monde autour de moi. Je trouve des excuses pour expliquer le fait qu'en réalité, c'est moi-même qui est en train de me laisser couler. OK? Mais il faut apprendre à vivre, mes amis, dans cette zone de délicieuse incertitude, encore une fois. Et dans cette zone de délicieuse incertitude, il faut arriver à passer par-dessus notre propre incapacité pour finalement arriver à voir la capacité de Dieu. Et Gédéon, justement, on va voir ensemble l'histoire de Gédéon qui nous apprend un principe extrêmement important. On va lire quelques versets ensemble et je vais vous dire quel est ce principe. Donc, en Juges, chapitre 6, on va aller au verset 14. Juges 6, verset 14. Juges 6, verset 14. La parole nous dit, « L'Éternel se tourna vers lui, donc vers Gédéon, et lui dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Mais l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Okay? » Ici, on voit capacité de Dieu versus capacité de l'homme. Ça doit être Dieu lui-même qui se présente devant lui, hein? Mais tout ce qu'il est capable de voir, c'est sa propre incapacité. Hein? Donc, le principe aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque vous amenez devant Dieu votre impuissance, il vous rappelle sa toute-puissance. Okay? Lorsque vous amenez devant Dieu votre impuissance, il vous rappelle sa toute-puissance. Okay? Parce que vous savez très bien comme moi que quand vous êtes dans un moment un peu de panique, il n'y a pas grand monde qui peut dire grand-chose pour vous aider à raisonner. OK? Tu sais, quand on part en peur, comme on dit, là, et que là, on commence à paniquer, puis là, quelqu'un va essayer de nous calmer. Oui, mais top. On a déjà toutes les excuses, tous les arguments pour contrer, peu importe qui va nous dire quoi. N'est-ce pas? Oui, mais s'il arrive ci. Oui, mais s'il arrive ça. Et là, mais non, calme-toi. Ça. Oui, mais si... Donc, Dieu est plus intelligent que ça, lui. Okay. Gédéon lui dit, je ne suis pas capable. Dieu ne lui dit pas, mais oui, tu es capable, mon grand. Vas-y. Non, non, non. Je ne suis pas capable. OK. Je suis capable. Je suis avec toi. Et c'est la même chose avec Moïse. On le voit avec Moïse. Quand Dieu a envoyé Moïse, il a dit, mais qui suis-je? OK, je suis qui, moi? Dieu lui répond quoi? Je suis. OK. Je serai moi-même avec toi. Donc, c'est là où c'est étroitement relié la manière dont nous nous voyons avec la manière dont nous voyons finalement Dieu. Parce que des fois, la manière dont nous nous voyons, on n'est pas digne de grand-chose, on ne mérite pas grand-chose, on n'a pas accompli grand-chose. On n'a pas les études nécessaires. On n'a pas l'expérience nécessaire. On n'a pas le talent nécessaire. Et Dieu nous appelle et Dieu nous dit, je veux que tu fasses ça. Dieu nous envoie dans les endroits et dit, je veux que tu sois une bénédiction pour eux. Dieu nous donne des enfants, nous demande de les élever, puis on se dit, mais comment est-ce que tu veux que j'élève des enfants, Seigneur? Et finalement, Dieu nous répond, non, je serai moi-même avec toi. C'est pas à propos de qui tu es, c'est à propos de qui je suis. Okay? Parce que voici ce qu'il faut comprendre. C'est que Dieu n'est pas et jamais tenté par le mal. Il ne tentera jamais personne avec le mal. Mais voici une chose. Comme Dieu lui-même a emmené le peuple d'Israël devant la mer Rouge, n'est-ce pas? Il y a des fois dans nos vies où Dieu veut nous emmener à cet endroit-là, ou ce sera, comment dire, irréfutable pour nous-mêmes et pour tous les gens autour de nous que c'est lui qui a agi. Et cette zone-là, c'est la zone de délicieuses incertitudes. C'est la zone de « qu'est-ce que je fais maintenant que je suis devant la mer et que mes ennemis sont derrière? » Parce que rendu là, je ne peux plus rien faire, personnellement. Et il y a des moments où est-ce que c'est exactement ce que Dieu veut. OK? Oui. OK? Pourquoi? Parce qu'il veut démontrer sa toute-puissance. Okay? Dans nos vies et dans les vies et autour des gens aussi. Parce que rappelons-nous, Dieu nous a envoyés pour faire quoi? Pour être des témoins. Et Dieu veut que nos vies témoignent aux gens autour de nous. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui a Dieu dans sa vie et la différence entre quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie? La différence entre quelqu'un qui a Dieu et quelqu'un qui n'a pas Dieu, c'est pas qu'il n'y arrive jamais rien de mal. C'est pas qu'il traverse jamais des épreuves. C'est que, d'une façon où on n'arrive jamais à comprendre, on n'arrive jamais à expliquer, il garde quand même la paix, il garde quand même l'enthousiasme, la joie, il garde quand même la sécurité, et alors que tout le monde pense que c'est terminé, il arrive à trouver une porte que personne n'avait vue, mais que Dieu seul peut ouvrir. Parce que Dieu ne veut partager sa gloire avec personne. Personne. Parce qu'il faut que tout le monde voie et que tout le monde sache que c'est Dieu qui règne dans votre vie. OK? Et oui, malheureusement, pour nous, ça implique d'être capable de vivre dans cette zone de délicieuse incertitude. Là où est-ce que ma propre capacité ne vaut rien face à la situation. Et que je suis obligé de m'en remettre totalement à la toute-puissance de Dieu. Et encore une fois, Gédéon nous démontre ce principe-là. Okay, on va aller juste un chapitre plus loin, en Juges, chapitre 7. En Juges, chapitre 7, on va commencer à lire au verset 1, pardon. Où est-ce que Gédéon a été envoyé, choisi par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de ses ennemis? C'était à l'époque des juges, où est-ce que Dieu choisissait des hommes comme ça pour les délivrer des différents ennemis qui les attaquaient. Et Jérubbaal, donc verset 1, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. C'est assez rare que tu t'en vas en guerre et que tu dis, on est beaucoup trop nombreux. Okay. Mais Dieu regarde et dit, non, vous êtes beaucoup trop nombreux. Et il donne la raison tout de suite après. Pourquoi? Parce que les gens vont pouvoir dire, nous avons réussi. Nous avons vaincu Madian. Et surtout dans la société dans laquelle nous vivons, ici, on a beaucoup à portée de main. On a beaucoup de possibilités. On a beaucoup de ressources. Et c'est facile de dire, c'est le gouvernement avec tel programme qui m'a aidé. C'est telle chose dans le système qui m'a aidé. C'est l'emploi que j'ai réussi à trouver parce que je suis bon dans ce que je fais qui m'a aidé. Okay? C'est le salaire que je fais qui me permet à moi de pouvoir, à ma famille. C'est facile d'oublier Dieu. Sauf quand? Ah, quand la tempête arrive. Hein? Mais quand tout va bien, quand tout est au beau fixe autour de nous, c'est facile de s'attribuer nous-mêmes le mérite. Et les gens nous disent, « Wow, félicitations, wow, t'as bien fait ça, wow, écoute, aujourd'hui, peu importe le problème que tu vis, j'ose dire qu'il y a une solution naturelle vers laquelle on peut se tourner. OK? Ou presque, on s'entend. Dans le sens que, où on peut se tourner, où est-ce qu'on peut aller chercher, n'est-ce pas? OK, on va aller là, on va se tourner ici, on va... Donc, c'est facile de mettre Dieu à l'écart. Jusqu'au jour où les solutions naturelles disent, c'est pas possible. N'est-ce pas? Mais pourquoi avons-nous besoin d'attendre toujours que ce jour-là arrive? Pourquoi on ne prend pas l'habitude de se tourner directement vers Dieu? Ça serait beaucoup plus simple et beaucoup moins compliqué d'avoir, amen, fait comme un peu comme la femme avec les pertes de sang qu'on voit, parce qu'elle, évidemment, elle ne connaissait pas autre chose que la Bible nous dit. Elle a dépensé tout son argent pour aller voir les médecins. Il n'y a personne qui a pu rien faire. Et elle est là, encore malade, sans un sou pour que quiconque puisse l'aider. Mais nous, on connaît mieux que cette femme-là. Dans le sens qu'on connaît le Seigneur. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir perdu tout notre argent. On n'a pas besoin d'attendre que toute notre famille soit partie, nous avait abandonné. On n'a pas besoin d'attendre de se retrouver dans toutes sortes de difficultés. On n'a pas besoin d'attendre de chercher je ne sais où. On peut aller se tourner directement vers le Seigneur. On peut aller chercher directement à lui. Donc le Seigneur dit, vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Et si vous êtes trop nombreux, trop confiants, trop capables, vous allez gagner la bataille. Il n'y a personne qui va dire, tout le monde va à la bataille avec Dieu, mais on est tellement nombreux qu'une fois qu'on gagne la bataille, c'est Dieu qui nous a amenés là, oui, c'est Dieu qui nous a donné des promesses, mais c'est nous qui a gagné. Hein? Et c'est ce qu'on a dit là. Lorsqu'on a parlé de l'offrande, on parle de cœur. C'est une question de cœur. Merci Seigneur, ma vie t'appartient. Merci Seigneur que grâce à toi, j'ai la vie. C'est toi qui me donnes tout. Mais c'est moi qui travaille pour. Donc c'est moi qui vais décider si tu mérites une partie ou non. OK? Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif, qui a peur, s'en retourne et s'éloigne à la montagne de Galaad. 20 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta juste 10 000. OK? Déjà là, c'est bon. OK, c'est bon. Une première coupure. 20 000. Hein? C'est ce que j'ai lu? J'ai dit 20 000. 22 000, pardon. OK? 22 000, oui. C'est ce qui est écrit ici aussi. Et d'un coup, tu te dis, ouf, OK, déjà ce qui reste, j'aimerais pas vraiment ça, moi, voir 22 000 de mes camarades s'en aller d'un coup. Mais non seulement ça, mais l'Éternel, Dieu, a le culot de dire, verset 4, le peuple est encore trop nombreux. OK. Faites-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage, celui donc que je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui que je dirai que celui-là n'aille pas avec toi, pardon, n'ira pas avec toi. Verset 6, on va sauter au verset 6. Donc ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. qu'il faut comprendre, okay, c'est qu'on lit dans les versets plus tard que Madian, ils étaient très nombreux. Okay? Et la Bible dit même que leurs chameaux, plutôt, étaient nombreux comme le sable de la mer. Donc, tu te tiens face à un peuple nombreux, à des cavaliers nombreux, à des chameaux, à une armée semblable au sable de la mer. Tu vois 22 000 qui viennent partir. Tu te dis, OK, on va y arriver quand même. Tu en vois 10 000 autres qui s'en vont. Oups! Et eux, ils n'ont pas bougé. Et Gédéon dit, « Allez, les gars, 300, on y va. » OK? Mais Dieu est bon. OK? Parce que plus loin que ce qu'on lit, plus loin on lit que Dieu dit à Gédéon d'aller, OK, un peu espionner dans le camp de l'ennemi. Et il dit, « Va entendre ce que les gens disent. » Alors Gédéon prend son serviteur et il s'en va avec dans le camp de l'ennemi et ils entendent deux soldats en train de parler, l'autre qui est en train de raconter un songe et que finalement son camarade lui révèle ce songe et lui dit « Oh, le songe que tu as eu, ce n'est rien d'autre que la main de Gédéon qui tombe sur nous. » Et là Gédéon entend ça, fortifié, et retourne et dit « Oui, le Seigneur va livrer nos ennemis entre nos mains. » Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Il prend la peine de dire à Gédéon, écoute, si tu as encore des doutes, si tu as peur, avec raison peut-être. J'étais déjà peu confiant de nos chances, et maintenant on est seulement 300. Donc dis non, si tu crains, va entendre ce que les gens disent. Ça va te fortifier, le Seigneur lui dit. C'est la même chose pour nous. Comme Dieu a amené le peuple d'Israël devant la mer Rouge, c'est Dieu lui-même, intentionnellement, qui a coupé l'armée, qui a réduit le nombre des soldats. Parce qu'il y a des choses dans vos vies dont Dieu veut que vous sachiez et que tout le monde autour sache que c'est lui et lui seul qui a fait. Parce que la réputation d'Israël ou la réputation de Dieu les a précédés. 300 contre des milliers. Tu sais qu'ils avaient plus qu'une bonne stratégie militaire, là. On s'entend. La renommée du peuple les a précédés. Lorsque Josué, lorsque les espions sont allés à Canaan, au-delà pour aller espionner, ils ont rencontré Rahab. Rahab, la prostituée, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Elle a dit, tout le monde sait qu'est-ce que Dieu a fait. Tout le monde ici est conscient et connaît comment Dieu vous a délivré d'Égypte. Et tout le monde ici, quoi? A peur. La réputation de Dieu les avait précédés. Donc, lorsque nous amenons devant Dieu notre impuissance, il nous rappelle sa toute-puissance. Et c'est un réflexe humain. C'est un réflexe humain et totalement normal. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à faire des choses dont nous ne sommes pas capables de faire. Parce que si nous étions à 100% capables et confiants, qui a besoin de Dieu? Qui va donner la gloire à Dieu? Okay? Mais il sait. Il sait qu'on va affronter des choses dans nos vies devant lesquelles nous serons impuissants. Devant lesquels nous serons totalement désarmés. Et c'est là que le Seigneur nous dit, aie confiance. Aie confiance non seulement à ma parole, parce que ma parole dit, je vais vous sortir d'Égypte. Je vais vous délivrer. C'est ce que ma parole a dit. Mais aujourd'hui, tu te retrouves devant la mer Rouge et tu dis, oui, mais Seigneur, tu m'as dit. Et là, voici ce qui se passe. Mais la Bible dit que non seulement il promet, mais ce qu'il promet, il est plus que capable de l'accomplir. Et là où est-ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que Dieu a... Écoute, fonctionne pas toujours comme nous on pense qu'il devrait fonctionner. Et qu'il va fonctionner. Il faut l'accepter. Et il faut apprendre à vivre avec. Parce que sinon, la délicieuse incertitude pour vous, ça va être seulement incertitude, inquiétude, stress constant, frustration, incompréhension. Pourquoi Dieu fait ci? Pourquoi Dieu agit de telle façon? Pourquoi Dieu n'agit pas? Il faut apprendre à vivre dans cette zone de délicieuse incertitude. Là où, nous sommes capables d'attendre que Dieu accomplisse ce qu'il nous a promis. Okay. Dieu est fidèle. Ce qu'il nous a promis, il va également l'accomplir. Mais, qu'est-ce que moi je peux faire? Fais la meilleure prière que tu es capable de faire. Si c'est tout ce que tu es capable de faire en ce moment, fais la meilleure prière que tu es capable de faire. Envoie la meilleure prière de foi et d'autorité que tu es capable d'envoyer. Amen? Et crois que le Seigneur est capable de prendre cette semence-là. Amen? Est capable de prendre ton naturel. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Alors je vous dis ce matin, allez avec la force que vous avez, et lorsque la force va vous manquer, mais croyez que le Seigneur, amen, va remplir ce qui vous manque. Parce que le problème, c'est là. Le problème, c'est soit on n'y va pas du tout, ou soit on y va avec notre propre force. Si tu n'y vas pas du tout, tu ne gagnes rien. Si tu y vas de ta propre force, tu te plantes. Mais le Seigneur dit, viens avec moi, avec la force que tu as. OK? Mais j'ai rien. Écoute, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Un bâton? OK. C'est assez pour moi. Hein? C'est assez pour moi. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Le peu de foi qui vous reste. Hein? 5 poissons? 5 pains, 2 poissons? Hein? C'est très peu pour nourrir des milliers. C'est assez pour Dieu. Parce que voyez-vous, lorsqu'on voit notre incapacité, notre impuissance au-delà de la puissance de Dieu, ce qu'on fait, c'est que on vient avec notre panier, on a nos poissons, nos pains dedans, et on regarde la situation, on se dit, c'est pas assez. On jette notre panier, mais voyons donc. Qu'est-ce que ça peut faire de bon? Et on perd une occasion. On jette tout ce dont Dieu avait besoin pour faire le miracle que nous avons besoin dans nos vies. Et des fois, c'est vrai, des fois, il ne nous reste rien d'autre que la prière. Mais la prière fervente du juste a une grande efficacité. OK? Donc, priez, et priez, et priez. Le doute vient, repriez encore plus fort. Chassez les mauvaises pensées. Conformez vos paroles à la parole de Dieu, et continuez. Et à travers la prière, vous allez voir que non seulement votre confiance, votre foi va monter, mais Dieu, tranquillement, va vous donner peut-être d'autres armes que vous ne pensiez pas que vous aviez. Donc, vous prenez la prière, vous prenez cette nouvelle arme-là, et go! Arrêtez de chercher les choses que vous n'avez pas, utilisez au contraire ce que vous avez. Parce que la vie, des fois, c'est ça. On va devant Dieu et on dit, « Oh Dieu, j'ai pas ci. Oh Dieu, j'ai pas ça. Oh Dieu, il me faudrait ci. Oh Dieu, il me faudrait ça. » Et Dieu dit, « Mais qu'as-tu dans tes mains? » Ah, ouais, c'est pas grand-chose. Okay. Mais pour lui, c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Okay? Parce que ce qu'il faut comprendre, que ce que vous avez, c'est lui-même qui a déposé cela. OK? Alors, il est capable. Il est capable de s'en servir. Il est capable de faire qu'on va voir infiniment au-delà. Amen? De tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut demander, de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut oser même se croire capable de faire. La parole ne nous dit-elle pas, « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Je puis tout. Pas parce que je suis meilleur que tout le monde, pas parce que par mes propres forces. Non, avec Christ, je puis tout. Si j'ai Dieu avec moi, je puis tout. Et c'est le témoignage que Dieu veut que vous ayez dans vos vies. C'est le témoignage que Dieu veut que les gens qui observent votre vie aient également. Qu'il peut tout, qu'elle peut tout, qu'il surmonte tout, qu'elle surmonte tout, qu'il arrive à traverser toutes les épreuves parce que Dieu est avec lui, parce que Dieu le fortifie. On veut évangéliser, témoigner. Wow! Le témoignage de la puissance de Dieu dans nos vies, c'en est tout un. OK? Parce qu'encore une fois, on est appelé des fois à passer à travers les mêmes tempêtes que ceux qui ne connaissent pas Dieu traversent. OK? Mais nous ne sommes pas seuls dans la tempête. OK? Il y a quelqu'un avec nous. Il y a quelqu'un qui nous accompagne dans cette tempête-là. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à venir, s'il vous plaît. Parce que voyez-vous, dans la zone de délicieuses incertitudes, on a mentionné, on va répéter, c'est également la zone de difficultés optimale. C'est la zone où votre foi va être le plus testée. C'est en même temps la zone où votre foi va grandir le plus et la zone où votre foi va être testée le plus. OK? L'un ne va pas sans l'autre. C'est la zone où l'athlète va être le plus mis à l'épreuve, va avoir le plus le goût d'abandonner. Mais c'est la zone où l'athlète, s'il persévère et continue, va voir des transformations, des changements qu'il n'aurait pas pu voir dans un extrême ou dans l'autre. Parce que le prérequis, le critère numéro un pour un miracle, c'est quoi? C'est l'impossibilité humaine. C'est l'impossibilité naturelle. Et Dieu ne se plaît pas à nous faire souffrir, à nous voir nous inquiéter. C'est nous qui s'inquiètent. Parce qu'à plusieurs reprises, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Et des fois, on regarde ça et on se dit, oui, mais Dieu, pourquoi tu me fais traverser ci? Pourquoi est-ce que tu... on se rappelle l'image de Jésus, hein? Traverser la tempête en dormant. Pourquoi est-ce que tu nous fais traverser? C'est parce que j'ai quelque chose de l'autre bord pour vous, là. J'ai décidé de vous faire traverser. Il y a une tempête qui est arrivée. OK. On dort. Parce qu'éventuellement, on va arriver de l'autre côté. Et c'est la même chose pour nous, là. Il ne veut pas qu'on s'inquiète. Il ne veut pas qu'on stresse, qu'on soit dans l'anxiété ou quoi que ce soit. Mais nous, on est limités. Nous sommes limités naturellement parce que nous sommes capables de faire. Et j'ose dire, sans me tromper, que nous avons tous fait face à des situations devant lesquelles on s'est dit, je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est impossible. Je ne m'en sortirai jamais. Même l'apôtre Paul, on le voit dans l'acte des apôtres, il dit, écoute, on était certains là. On était certains qu'on allait mourir. Amen. L'apôtre Paul lui-même, pas qu'il craignait la mort, pas qu'il avait peur, mais oui, il regardait les circonstances et il se dit, je suis prêt à mourir pour Dieu, j'ai donné ma vie pour Dieu, s'il faut que je meure pour Dieu, je suis prêt, c'est pas ça la question. Mais il regardait les circonstances et il se dit, waouh, c'est sûr qu'on meurt là. Okay? Je ne stresse pas avec ça, c'est correct, je suis prêt à accepter la mort, je suis prêt, Seigneur, à venir devant toi. Je sais qu'être devant toi, c'est le meilleur, mais honnêtement, il n'y a pas grand chance qu'on s'en sorte là. Wow. Mais ce qu'il dit, c'est justement ça. C'est que c'est Dieu, lui seul, qui les a sortis de là. OK? Et il y a des situations dans nos vies dont Dieu seul peut nous sortir de ces situations-là. On prie, et des fois, je sais qu'il y a cette ambiguïté, cette difficulté à déceler. Hein, on arrive dans des situations où ce qu'on décèle, est-ce que c'est l'ennemi qui me met des bâtons dans les roues, qui me fait traverser ça, ou est-ce que c'est le Seigneur, des fois, qui me met à l'épreuve, ou quoi que ce soit? Mais je redis ce que j'ai dit, le Seigneur n'est pas tenté par le mal et ne peut pas tenter par le mal. OK? Et dans tout ça, voici la chose. Si c'est l'ennemi qui vous fait traverser ça, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, vous avez l'autorité, la toute-puissance. Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Et si c'est Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'est-ce qu'il vous dit? Il a le pouvoir de l'accomplir. Amen. Donc, peu importe, vous pouvez dormir tranquille et savoir que vous allez passer de l'autre bord. Amen. OK. Parce que des fois, on stresse trop, on passe trop de temps à penser à ça. Non, peu importe la situation, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, que je sois contre l'ennemi, ou Dieu est avec moi, que je sois seul avec lui. Amen. Et dans cette délicieuse incertitude, il faut arriver là. Il faut arriver à mettre de côté son impuissance et d'être capable de revêtir la toute-puissance de Dieu. Il faut être capable d'accepter que Dieu nous appelle vaillants héros, comme il a appelé Gédéon. Et Gédéon, sa réaction, c'était, écoute. Vaillant héros, Dieu, l'Éternel est avec toi. Et la réaction, c'est oui. C'est beau ce que tu dis, mais si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce qu'il nous arrive tout ça? Est-ce que, j'ai pas besoin de lever la main, vous êtes déjà dit ça une fois dans votre vie? Oui. OK? Ah, mais si c'est Dieu qui m'a appelé, pourquoi est-ce que ça m'arrive ça? Ah, mais si Dieu est avec moi, pourquoi est-ce que ça m'arrive ça? Si la prière est efficace, pourquoi est-ce que je prie et qu'il arrive ça? Ah, pourquoi? Et qu'est-ce que Dieu a répondu? Il n'a rien répondu à ça. C'est moi qui t'envoie. Je serai moi-même avec toi. Okay? Devant notre impuissance, Dieu nous rappelle sa toute-puissance. Donc, il faut arriver à être à l'aise avec son impuissance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire arriver au point où est-ce qu'on est capable de dire, oui, c'est là ma mer rouge à moi. C'est là où est-ce que moi j'ai franchi tout ce que je savais faire, Seigneur. C'est là où est-ce que j'ai fait tout ce que je savais faire. J'ai prié toutes les prières que je connaissais de prier. J'ai mis en pratique tout ce que je vois dans ta parole qui est en lien avec la situation que je vis. Et maintenant, Seigneur, j'ai aucune idée de comment ça va se terminer. Tout ce que je sais, c'est qu'en toi, je suis plus que vainqueur. Et ce que tu promets dans ma vie, tu as plus que le pouvoir de l'accomplir. Donc, au lieu de déclarer la crainte, au lieu de déclarer les peurs, Seigneur, je décide de déclarer ce que tu m'as promis. Je décide de dormir dans la barque. Tu me réveilleras lorsqu'on sera arrivé de l'autre côté. Amen. Faut arrêter de s'inquiéter pour tout et rien, là. Et Dieu le sait, encore une fois, qu'on est un peu enclin à ça, hein? À l'inquiétude, à qu'est-ce qui va se passer dans le naturel, encore une fois, est beaucoup plus fort. Notre impuissance parle beaucoup plus fort que la puissance de Dieu, des fois. Parce qu'il y a toujours un côté naturel et il y a toujours un côté spirituel. Et le naturel, c'est celui qui est là en premier devant nous. C'est celui qui parle en premier. OK? Et pas parce qu'il parle plus fort qu'il a nécessairement raison. Okay? La vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est alors que je me plais dans les faiblesses. C'est alors que l'incertitude devient délicieuse. C'est alors que dans la faiblesse, je me plais. Pourquoi? Parce que je sais que c'est là que lui entre en scène. C'est là que lui fait sa partie. C'est là que je dis, Seigneur, j'ai fait ma part. Seigneur, je suis allé où ce que tu m'as demandé d'aller. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai dit ce que tu m'avais demandé de dire. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et Dieu est fidèle. Et il est plus que capable. Plus que capable. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Parce que la réalité, c'est tant aussi longtemps que vous allez fixer vos regards sur votre propre impuissance, vous ne serez pas en mesure de totalement embrasser la puissance de Dieu. OK? Alléluia, Seigneur. On va juste prendre un moment. Alléluia. Là où vous êtes ce matin, pensez à cette mer rouge peut-être qui se dresse devant vous. Pensez à cette guerre peut-être où est-ce que vous avez l'impression que le trois quarts de l'armée est parti là. Que vous êtes là devant un ennemi innombrable. Et surtout à vos yeux, un ennemi insurmontable. Pensez à cette situation-là. Et n'ayez pas crainte. Avouez votre impuissance devant Dieu. Avouez le fait que vous, dans vos limites, vous êtes rendu là. Parce que de toute façon, Dieu le sait, là. Okay? Mais au-delà de ça, déclarez non seulement à Dieu, mais à votre situation en ce moment. Déclarez. Confessez à Dieu votre impuissance, mais déclarez à votre situation la toute-puissance de Dieu. Amen. Confessez à Dieu votre impuissance, mais déclarez à votre situation la toute-puissance de Dieu. Amen. Oh. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais qu'il y a des gens ici ce matin. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais je suis convaincu que vous avez besoin d'entendre ça. Et pas juste l'entendre, le saisir et le prendre pour vous. Là. De l'écouter là. Prenez le temps de remettre vos soucis, vos inquiétudes entre ses mains. Vous avez tout essayé, vous avez fait tous les calculs qu'il fallait faire, il n'y a rien qui fonctionne. Arrêtez d'essayer de vos propres forces. C'est pas le temps d'abandonner non plus. Au contraire, remettez-lui tout entre les mains. Et quand on lui donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne le garde pas. Ça veut dire que nous, on s'en va en paix. Qu'on ne va pas aller s'acheter la même chose qu'on a demandé qu'il nous donne. Okay. Mais pour Dieu, c'est un plaisir, là. C'est un plaisir de donner à ses enfants le royaume, de donner à ses enfants ce dont ses enfants ont besoin, de répondre à leurs prières. C'est un plaisir, comme pour un père, une mère, de démontrer à son enfant son amour. Et Dieu veut vous démontrer son amour. Il veut vous démontrer qu'il est là, constamment, tout le temps, en toute occasion. Et il veut que les gens autour de vous aussi vous le sachiez. Alléluia. Merci Seigneur. Et juste avant de quitter, s'il y a quelqu'un ici justement qui veut faire de Jésus le Seigneur, le maître de sa vie pour la première fois. Parce que s'il y a une chose dont on est impuissant, dont on est incapable, c'est de nous sauver nous-mêmes. Amen. De, entre guillemets, gagner notre ciel nous-mêmes. C'est pas par nos œuvres. C'est pas par nos efforts personnels. C'est par la foi au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Donc s'il y a quelqu'un qui veut dire oui ce matin, dire oui, je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi, qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu. Et qu'en croyant en lui, j'ai la vie éternelle. Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait dans votre cœur, que vous n'avez jamais confessé ce matin, la bonne nouvelle, je vous donne l'occasion de le faire maintenant. La manière qu'on va procéder est très simple. Je vais compter jusqu'à trois, simplement. Et à trois, si c'est vous, si vous désirez qu'on s'unisse avec vous, que je fasse cette prière-là avec vous, cette confession avec vous, juste lever la main. Ça va me faire plaisir de le faire. Donc, un, deux, trois, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire du Seigneur Jésus le sauveur, le maître de sa vie? Alléluia, alléluia, alléluia. Ah. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia Seigneur. Coria va santo. Alléluia, si vous me permettez juste quelques instants, amen, de rester dans cette atmosphère là. C'est pas terminé, OK? C'est pas terminé. C'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre des choses. Il y a des gens que le Seigneur veut parler, je crois, ce matin. Oh, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Que je ressens pour vous, ce que le Seigneur me dit, c'est relever la tête. Je ressens comme s'il y a eu une déception, une bonne déception à propos de quelque chose que vous attendiez, que vous espériez. Peut-être que je me trompe, ok? Si ça a à voir avec la famille, un enfant, ok? Est-ce que c'est ça? Oui? Ok. Dieu dit relever la tête, ok? Parce que devant votre incapacité, devant cette situation-là, c'est sa toute puissance. Amen. Et que c'est lui-même qui va vous consoler. Okay? C'est lui-même qui va vous consoler. Parce qu'en ce moment, c'est comme si c'était, c'est ça, trop gros, insurmontable. Mais c'est lui-même qui va vous consoler. Okay? Soyez bénis. Oh, alléluia, Seigneur. Ce que j'entends, c'est pourquoi doute-toi, pardon, excuse-moi, pourquoi doute-toi, doutes-tu de mon amour? Okay? Pourquoi doutes-tu de mon amour pour toi? Que cet amour-là n'est pas basé sur tes performances, sur les choses que tu fais ou les choses que tu ne fais pas, sur les bons ou sur les moins bons coups. Cet amour-là est basé simplement sur le fait que il t'aime. Et il t'a créé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et il n'y a aucune qualification pour ces bonnes œuvres-là, autre que de croire en son amour. C'est que là, tu as besoin de revenir au milieu et de sortir de cet extrême-là, de croire soit que tu ne le mérites pas, ou de balancer de l'autre côté où est-ce que tu t'efforces de prouver que tu le mérites. Mais ce matin, Dieu, je ressens, veut tout simplement dire, je t'aime.